Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli pour ce colloque. Donc, en écoutant ce matin les intervenants, je regrette évidemment de ma conférence aussi, mais je ne vais pas changer de sujet par rapport à ce que j'avais prédit, parce qu'en écoutant Serge Audier, je me suis dit que j'aurais mieux fait, au fond, de venir vous parler du modèle suisse que de la France, parce qu'on a beaucoup parlé de participation, et j'aurais beaucoup aimé, mais je n'ai pas le temps de le reprendre à l'improviste, vous montrer les paradoxes qu'il peut y avoir aujourd'hui, entre, puisqu'on parle de participation, entre ce que c'est une démocratie directe et ce que j'appellerais le bien commun atrophié. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système qui soit vraiment parfaitement démocratique au sens du référendum, référendaire, et en même temps, évidemment, s'interroger en quoi ce système référendaire produit au contraire le contraire du bien commun. Et ça, bon, mais je n'aurai pas le temps de vous le développer aujourd'hui, je suis resté sur le cas de la France. Je me situerai, deuxième point d'entrée, dans une dialectique qui peut être archéologique pour vous, has-been, j'allais dire, qui constitue à penser que le passage au bien commun se fait par la question du bien public et de la propriété publique. Deuxième point. J'ai beaucoup entendu ce matin les oppositions sémantiques intellectuelles faites, et je me situe à ce moment-là très très loin de mon ami Tony Negri, qui produit, d'après ce qui a été dit ce matin, effectivement une théorie du bien commun hors sol, et là je m'en éloigne profondément. Alors, ce que pour supposer l'introduction, je rappellerai... Je partirai surtout aujourd'hui par une entrée qui est Hannah Arendt et Hans Jonas. Je rappellerai que Hannah Arendt rappelle très bien qu'il y a trois domaines, domaine public, domaine privé, et qu'il y a un troisième champ fondamental au XIXe siècle qui s'élabore, qui est le champ social. Et que le champ social, c'est l'intégration de l'économie familiale dans le domaine public. Évidemment, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de situer à la fin du XIXe siècle l'émergence de l'urbanisme comme... dans un cadre beaucoup plus complexe qu'est l'hygiène publique, l'emploi salarié, le logement digne, etc., l'éducation. Je vais passer très vite là-dessus. Donc, pour, au fond, interroger cette question qui apparaît à la fin du XIXe siècle, de doter les villes de plans d'urbanisme, étant entendu que l'urbanisme est à la fois la science de la paix sociale, et peut-être aussi, c'est très important pour la question du bien commun, ce concept derrière ce qu'on appelle de l'urbanité, ce qui pour moi m'interroge, c'est-à-dire effectivement la capacité de vivre ensemble et de partager des valeurs communes. Alors, le questionnement que je propose, il est intéressé, j'allais dire, d'une certaine façon, je vais en revenir très vite là-dessus, il constate deux grandes phases dans l'histoire de l'urbanisme en France, d'une certaine façon, la période 1910-1982, qui est le welfare state, la construction de l'État providence, bien sûr. Et puis à partir de 1982, la deuxième phase descendante, on pourrait dire, enfin entre guillemets, qui est la phase de décentralisation et qui est effectivement cette phase souhaitée de participation des habitants au processus démocratique, mais qui est en même temps totalement heurtée par les crises économiques de 1973 et ce qu'on pourrait appeler, par au contraire, l'arrivée de ce qu'on appelait de ce que Donzelot appelle l'État régulateur, c'est-à-dire un État qui perd ses moyens d'action, mais qui devient un partenaire du privé, et dans lequel des questions de l'inaliénabilité du bien public se posent comme question. Alors je vais faire trois parties assez courtes, je ne veux pas évidemment monopoliser la parole, pour montrer évidemment comment se glisse cette question du bien public et comment elle interroge évidemment la question du bien commun. Première partie, donc je vais revenir très vite sur les fondements de l'urbanisme comme théorie du public qui, à mon avis, construit du bien commun. On pourra le discuter. Et deuxième partie, très rapide, sur évidemment la crise de ce modèle à partir des années 80. Et en trois, peut-être une question plus théorique sur comment repenser l'urbanisme comme outil du bien public et du bien commun, si tant est qu'on puisse le faire. Première partie qui m'intéresse, vous le comprenez bien, c'est évidemment de prendre en considération que cette paix sociale fondée sur les ambitions de solidarité à la fin du XIXe siècle va développer des outils spécifiques qui sont au cœur de l'urbanisme, qui est fondamental même, qui est l'expropriation. Ça, j'insiste là-dessus. Pour qu'il y ait de l'urbanisme, il faut qu'il y ait un outil fort, qui est l'expropriation publique. Donc, ce qu'on aperçoit à partir de la fin du XIXe siècle, c'est que le grand débat théorique de la Troisième République, qui est un débat compliqué parce que la Troisième République est très bourgeoise, très partisan de la propriété privée, c'est évidemment comment fabriquer des outils qui vont permettre à la collectivité publique de se donner les moyens de contrôler le sol pour, effectivement, fabriquer de la péréquation sociale, je dirais, ce qu'on appellerait aujourd'hui la ville juste, une cité juste. Et on voit évidemment que ça, c'est très intéressant, ces mouvements partent du privé, partent des mouvements réformistes privés du musée social, des catholiques sociaux,
qui vont évidemment demander au fond à la puissance publique de prendre le droit d'expropriation et vont échouer pendant, à travers 6 propositions de loi, ça je le rappelle juste, et vont pouvoir le réaliser à travers ce qu'on pourrait appeler l'application de la raison d'État, qui est la guerre de 14-18. Donc ça aussi très intéressant. Au fond, l'urbanisme devient un processus de construction du bien public, on pourrait dire d'un bien public commun, à partir de la guerre. Et chaque fois, les guerres vont être des moteurs de cette construction publique. La loi 1918 sur la reconstitution des régions libérées, c'est la loi Cornudet, elle est prise après la guerre pour reconstruire, sur la base d'un principe de solidarité, les villes sinistrées et indemniser les sinistrés. Alors, les difficultés d'application, je ne vais pas le développer, sont importantes. Lenteur des mises en processus, difficultés d'acteurs, manque d'expertise. Et on voit tout l'entre-deux-guerres être marqué par cette incapacité, je dirais, à planifier de façon efficace les villes et surtout se heurter à un débat qui est très actuel aujourd'hui, qui est l'aménagement de la région parisienne qui échoue et qui aboutit en 1939 à un plan d'urbanisme qui, une fois de plus, est approuvé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre. J'insiste encore là-dessus. Alors, donc, 1940 ouvre une voie très intéressante pour l'histoire de l'urbanisme en France, qui est que c'est le gouvernement de Vichy, donc l'État français, qui va déposséder les collectivités locales de leur pouvoir d'urbanisme au nom de l'intérêt général. Et comme par hasard, j'insiste là-dessus, de Gaulle, en 1944, confirme ce rapt démocratique, d'une certaine façon, pour construire la France des Trente Glorieuses. Alors après, évidemment, on a à partir de cette construction de ministère, la construction, l'équipement, on a un urbanisme de la croissance qui se met en place et qui se focalise sur des outils d'expropriation publique d'intérêt général à travers les zones d'urbanisation prioritaire et surtout la loi foncière de 67 en matière d'urbanisme. Donc voilà un peu le cadre. Alors quel est le basculement des années 70 ? Ben, il est évidemment que la ville, sous les contraintes économiques, la ville va se défaire et que ce territoire urbain relativement homogène par des politiques publiques est pris dans l'engrenage de la segmentation, la fragmentation, ce qu'on appelle, certains appellent la ville d'archipel. Touraine parle dans 1991 du glissement d'une ville de la discrimination vers la ségrégation, les périphéries cumulent les handicaps et on rentre dans cette crise de l'État-providence qui se heurte de plein fouet avec la première loi de décentralisation de 82 qui ambitionne de redonner a priori le pouvoir aux collectivités locales pour faire, par la proximité, répondre aux questions d'urbanisme. Alors on voit apparaître un urbanisme managérial qui est effectivement, ce que je disais tout à l'heure, un urbanisme de la négociation du rapport public-privé et qui réduit la portion publique, évidemment à sa plus stricte, à un socle très limité. Et on arrive à ce moment-là, effectivement, à ce qu'on appelait la démocratie de guichet, c'est-à-dire effectivement un urbanisme qui devient clientéliste, un urbanisme dans lequel les décisions locales sont contraintes par des coalitions d'intérêts, des advocacy coalitions, et dans lesquels les buts politiques recherchés fragilisent le maintien de l'intérêt général. Alors je vous cite les cas sont nombreux aujourd'hui, de prise illégale d'intérêt, vous les connaissez, ancien conseiller technique du ministre des Finances qui a réussi à détourner un tracé de TGV pour protéger la maison de sa grand-mère, il faut quand même le faire dans un état de droit comme la France, des communes les plus riches qui refusent d'appliquer les lois, comme la loi d'orientation sur la ville, je pense à Neuilly, qui refuse de faire du logement social, le seuil des 20%, qui préfère payer une taxe donc, pour ne pas faire de logement social, et la Cour des comptes, évidemment, qui repère d'une certaine façon, de façon très, très souvent, l'échec aussi de la politique de la ville par trop de lourdeur, trop d'inefficacité et contre-emploi, évidemment, des financements. Donc on assiste au contraire à ce que, d'une certaine façon, peut-être Hannah Arendt avait aussi énoncé, c'est-à-dire un repli sur, à travers des gated communities, une espèce de mosaïque territoriale qui, au fond, détruit peut-être de l'espace public au détriment du privé. Donc quelque part, au fond, l'idée de justice par l'urbanisme est aujourd'hui en panne et même va à contre-emploi, puisque vous avez entendu aussi parler de cette fameuse proposition du président Paul Giacobbi, qui est président du conseil exécutif de la Corse, qui propose de limiter l'accès à la propriété foncière pour les non-résidents corse en l'intégrant dans les documents généraux d'aménagement de l'île. Donc ça veut dire que là, on retourne l'outil, et cet outil qui est un outil fait pour réguler évidemment les rapports publics-privés dans une cohésion globale d'un espace commun va devenir... serait en passe de pouvoir devenir un outil, au contraire, de sélection, tri, au-delà même de tous les droits fondamentaux de la liberté de se déplacer, et du droit de propriété constitutif de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Alors, la question qui nous est posée, voilà, la question qui m'a intéressé, je n'ai évidemment pas de réponse, c'est au fond, peut-on repenser l'urbanisme comme un outil à la fois, et j'insiste sur la dialectique, de construction de la propriété publique et par-delà de construction du bien commun. C'est pour ça que je réitère, je le formule de façon complémentaire. Et je le postule peut-être, au fond, dans une vision, je dirais, qui n'est pas une vision, comment pourrais-je dire, positiviste, déterminée par des modes de régulation spécifiques, puisqu'on est dans une société libérale qui ne va pas changer immédiatement. Et donc que les questions sont bien des questions d'éthique, au fond, c'est-à-dire des questions du rapport au bien public et du rapport au bien commun. Hein. Et c'est là où je m'intéresse à ce que dit Arendt, puisque Arendt, évidemment, à travers cette question des sphères publiques, privées, de la sphère sociale, va s'interroger sur, effectivement, au fond, le paradoxe qui est que, elle l'énonce elle-même, elle va dire, au fond, il y a un paradoxe important chez les individus, c'est que, par son appartenance à la société, l'individu se réduit à un être social et perd peut-être ce qui l'on fonde en tant qu'être humain. Et là, on voit apparaître un des fondamentaux de son analyse, c'est-à-dire la critique de la conception de la société de masse, qui est de dire, au fond, bien évidemment, dans une société, l'individu doit rester, doit faire preuve de sociation, c'est-à-dire de capacité, selon l'analyse weberienne, de cette capacité à rassembler et d'être maître de son destin, pour faire société. Hein, en disant, effectivement, la question, c'est peut-être pas la disparition des différences, la question, c'est, au fond, comment les individus arrivent à dialoguer, dépasser les frontières, ce qu'elle appelle les frontières de l'étrangeté, pour engager le partage, et effectivement, engager le partage par la question du politique. Donc, dépasser les solutions techniques par cette question éthique apparaît peut-être un élément important. Alors, je ne vais pas répéter ce que nous dit Hannah Arendt du bien commun, mais elle dit des choses très intéressantes par rapport à la discussion qui a eu lieu aujourd'hui. Hein. Elle dit le bien commun, c'est ce qui nous rassemble, mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres. Et elle va dire, évidemment, la fin du bien commun, d'une certaine façon, engage la fin du politique et la fin de notre démocratie. Donc, du coup, bien évidemment, j'allais dire, l'urbanisme comme élément ou pas contributeur du bien commun reste un élément totalement fondamental. Alors, deuxième, mais évidemment, Arendt va se heurter là aussi à la nature même de l'objet politique. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, deuxième personnage qui m'intéresse évidemment, ce qui est un personnage qui est Enjolras. Pourquoi Enjolras ? Parce que c'est peut-être un des personnages fondamentaux sur les questions environnementales, hein, dans lesquelles l'urbanisme peut se lier, et qui a cherché, lui, à caractériser, à définir la nature comme bien commun. Et évidemment, le premier, il a dit, Enjolras, au fond, ce que j'ai dit d'une certaine autre façon, mais il le dit mieux que moi, sûrement, bien évidemment, il dit, au fond, le bien commun se situe au-delà du rapport instrumental ou des besoins humains spécifiques. Hein. Donc il introduit une dimension qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est l'interprétation, alors évidemment qui serait critiquée par d'autres courants dont on nous a présenté les éléments ce matin, mais il dit effectivement l'interprétation fondamentale doit être une interprétation d'ordre métaphysique. Hein, c'est-à-dire effectivement, au fond, qu'elle est métaphysique et théologique. C'est-à-dire effectivement, la nature est un bien absolu d'une certaine façon, et au fond, la seule façon de pouvoir la traiter, c'est, ou de l'accepter, c'est de pouvoir s'en reconnaître redevable en tant que telle. Donc, à travers la question de la nature, Enjolras va définir une éthique universaliste, j'allais dire, de la responsabilité de l'individu dans le cadre de cette gestion du bien commun. Hein. Et là, on retrouve ces éléments qu'on connaît, hein, c'est-à-dire ce principe responsabilité. Toute action doit demeurer compatible avec le maintien d'une vie authentiquement humaine, on en a déjà un peu parlé ce matin, qui ne compromettent ni la possibilité d'une telle vie, ni les conditions de survie indéfinie de l'humanité sur Terre. Alors, donc c'est ce qu'il appelle l'impératif d'avenir, hein, l'impératif d'avenir, un principe très kantien dans lequel, effectivement, on doit penser la nature comme un objet en soi, et dans laquelle, évidemment, l'homme va être redevable de cette nature. Alors, évidemment, cette interprétation m'intéresse pour interroger la question de la ville, non pas simplement de l'urbanisme, là, mais effectivement de la ville, et notamment les enjeux, on en a un peu parlé aussi ce matin, les enjeux fondamentaux de la ville aujourd'hui dans la question de la pensée du développement durable, hein, la ville écologique, la transition énergétique, etc., qui sont des éléments aujourd'hui fondamentaux au cœur même du devenir de l'humanité, sur lequel on peut même s'interroger de façon pessimiste, hein, sur, vous le voyez bien aussi, sur ce qu'on appelle l'émergence des politiques d'adaptation au changement climatique, qui sont très, très, très inquiétantes, parce que si on s'adapte, ça veut dire qu'on a renoncé déjà en tant qu'être humain, à pouvoir évidemment s'interroger sur ce bien commun qu'est la nature et à le reconstruire pour éviter le réchauffement climatique. Donc je retrouve à travers effectivement ces éléments d'analyse environnementale peut-être des potentialités d'application à la question urbaine. Hein, en souscrivant au principe de Jonas sur la nature, l'urbanisme ou la ville peut-être pourrait redevenir des savoirs et des savoir-faire, alors prescriptifs de l'intérêt général bien sûr et du bien public, mais participant à la constitution d'un bien commun général et qui permettrait d'assurer la responsabilité d'équité et de justice. Alors ce serait ce que j'appellerais, ce qui est déjà dans d'autres systèmes, hein, le passage du droit de l'urbanisme à un droit à l'urbanisme. Hein, évidemment, ce changement-là est particulièrement important, peut-être aussi comme se pose la question aujourd'hui de l'accès au logement, hein, le droit au logement. Donc on voit que là, on a une possibilité peut-être de travail sur le glissement d'une approche utilitariste à une approche plus essentialiste, hein, qui m'intéresse, et dans laquelle pourrait se refondre l'espace public comme démocratie. Alors on voit que Hannah Arendt et d'une certaine façon, Enjolras nous donne des clés peut-être intéressantes sur une éthique, une nouvelle éthique, hein, une éthique du bien commun, du savoir-vivre ensemble et du maintien de la démocratie. Par dialogue citoyen dans l'espace public. Ça, on est d'accord. Hein. Là, je suis en train de conclure pour tenir les délais, pour ne pas être trop long. Alors, évidemment, le problème dans lequel on rentre, c'est le problème, évidemment, le problème non résolu, hein, si je poursuis cette analyse jusqu'au bout, c'est bien évidemment la question, de la démocratie, hein, qui revient, et on le voit dans le désarroi, on le voit chez Hannah Arendt, hein, quelque part, dans sa méfiance à l'égard des systèmes qui se veulent, au souhait bien sûr, mais en même temps à la tension qu'il y a entre son souhait de la démocratie et la peur de la société de masse et de ses implications dans la démocratie. Mais on le voit aussi très bien à travers le désarroi explicite de Jonas qui dit effectivement... le problème, c'est comment peut-on rendre l'homme moins cupide et moins avide, et du coup, évidemment, la grande question philosophique qui ne se résout pas, c'est si l'homme ne change pas, en quoi la démocratie pourrait-elle arrêter la catastrophe, hein, comment dépasser l'obligation de ne pas céder à la résignation? Et là, on voit bien évidemment que sa pensée de l'éthique du futur n'ouvre pas nécessairement sur les conditions opérationnelles d'une nouvelle démocratie. Hein, voilà. Je crois que j'ai à peu près 10, je m'arrête. Merci.